Aujourd'hui, la masterclass de François Sureau avec Emmanuel Laurentin.
Bonsoir et merci d'être venu à la Bibliothèque nationale de France dans le cadre de la Nuit des idées pour cette masterclass qui est enregistrée avec François Sureau. François Sureau, c'est bien le romancier, l'écrivain et non l'ancien conseiller d'État, l'avocat qui bataille pour les libertés publiques dans des libelles à succès, à qui nous allons demander ce soir de nous expliquer son parcours de lecteur, son parcours d'écrivain, pour parvenir peut-être à collecter quelques façons de faire qui nous permettent de mieux comprendre cet univers si éloigné du nôtre, qui est celui de l'auteur, avec un grand A bien entendu. D'autant plus difficile que vous aimez brouiller les pistes, mêler votre goût pour certains classiques et vos coups de gueule contre les injustices de ce monde, parler à la fois de votre désir de liberté et de votre besoin d'ordre qui vous conduit à rejoindre de temps en temps la réserve opérationnelle de la Légion étrangère. Depuis La corruption du siècle, publié en 1988, jusqu'à Je ne pense plus voyager, en 2016, par exemple, vous avez construit une œuvre qui a reçu de nombreux prix, depuis le prix Crelette jusqu'au prix Honneur et Patrie. Une œuvre qui décrit l'impétueux, qui décrit le changeant et qui valorise le déplacement. Est-ce parce que vous-même, promeneur du Champ de Mars ou d'ailleurs, qui marchait d'ailleurs parfois dans les traces de Nadja, du côté de la Tour Saint-Jacques, et qui prenait peut-être froid comme ce soir, est-ce que vous vous êtes vous-même déplacé ?
Est-ce que je suis moi-même déplacé au sens d'une personne déplacée ? Oui, en fait, oui. J'ai beaucoup décrit des personnalités qui étaient des personnalités étrangères, parce que j'ai toujours eu depuis, je pense, depuis l'enfance ou la sortie de l'enfance, cette impression assez étrange de me trouver, comme disait Aragon, en étrange pays dans mon pays lui-même. C'est-à-dire que le pays lui-même était quelque chose qui, à la fois, m'était cher et m'était étranger. Ce qui explique l'assez grand nombre de figures, entre guillemets, exotiques dans les livres que j'ai écrits, que ce soit des Égyptiens, des Russes, et même, à certains égards, des Corses, qui sont, au fond, par rapport aux Français continentaux, des figures exotiques. Et ceci est à mettre en parallèle avec une impression que j'ai eue très tôt également au sortir de l'enfance, quand j'y pense, et qui est l'impression qu'il existait un voile des apparences posé sur les choses, qu'il nous appartenait d'écarter, chacun pour notre compte, les écrivains en écrivant, ceux qui n'écrivent pas en n'écrivant pas et en vivant leur vie du mieux possible, mais que cette vie-là, la vie que nous voyons, la vie... telle qu'elle va, la vie courante dont parle Maïakovski, cette vie-là était une vie apparente. Alors, je ne suis pas un platonicien fou, je ne pense pas nécessairement à la caverne et aux ombres, mais que c'était une vie apparente et que derrière cette vie apparente, il en existait une autre. Et qu'au fond, le travail de la littérature consistait à essayer de discerner sous la vie apparente la vie réelle. C'est une chose qu'on fait souvent mieux en se déplaçant dans son propre pays, comme dans un pays étranger, en se déplaçant à l'étranger comme dans son propre pays, parce que dans les moments de déplacement, on voit bouger les choses de manière presque imperceptible. Et dans le mouvement d'accommoder, dans le mouvement du regard, on a parfois l'impression, on a l'intuition de cette vérité des choses et de cette vérité du monde que tout conspire à nous cacher. L'ordre, les institutions sociales, les nécessités de la vie, et que pratiquement à la fois le voyage et l'amour, au fond, nous aident à faire bouger, pour voir ce qu'il y a au-delà. Et c'est une des raisons d'ailleurs pour lesquelles, vous parliez de Nadja, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai beaucoup aimé le surréalisme et pour lesquelles je lui suis resté fidèle en tant que mouvement... esthétique. Le surréalisme n'est pas seulement un mouvement esthétique, c'est un mouvement de vie, c'est un mouvement existentiel, c'est un mouvement qui consiste à essayer de discerner une sorte de réalité presque magique des choses cachées sous l'apparence et qu'on retrouve chez des auteurs d'ailleurs extrêmement éloignés les uns les autres, qu'on retrouve également chez Max Ernst d'un côté, chez Breton naturellement, mais chez Julien Gracq aussi.
Et au point que quand vous... entrer au Conseil d'État, que vous n'avez pas encore une carrière d'écrivain devant vous, même si vous l'espérez. Vous racontez dans Le chemin des morts que vous vous promenez justement et que vous suivez le chemin du roman de Breton dans Paris, comme pour chercher ce Paris secret qu'on a ensuite beaucoup vanté dans les années 60 et 70, avec ces guides de Tchou, vous savez, ces guides du Paris mystérieux.
De Kardec.
Oui. Voilà, qui nous racontaient une sorte de monde en dessous du monde qu'on pouvait voir.
Il y avait deux choses. Il y avait cette idée-là, cette idée d'entrer dans le... Oui, d'entrer dans le paysage, vous savez, d'entrer et de sortir du paysage, un peu comme le héros de la rose pourpre du Caire dans le film de Woody Allen, vous voyez, qui était une chose qui m'a toujours tenté. Alors, je dois confesser que c'est peut-être le fait de gens qui ne sont pas à l'aise dans la vie, vous voyez. Au fond, à la question « Pourquoi écrivez-vous ?», la réponse la plus simple est peut-être probablement parce que quelque chose ne va pas. Si tout allait, je pense qu'on n'écrirait pas. Et donc, comme beaucoup d'autres écrivains, j'imagine, j'écris parce que quelque chose ne va pas. Et en fait, ces promenades sont une aussi, que j'ai continué à faire, que je continue à faire de manière presque quotidienne, sont une manière aussi à la fois d'habiter le monde et de me réconcilier avec lui et de ne pas me satisfaire de l'apparence qu'il se donne. Alors, le Paris mystérieux, celui dont parle Kardec, je vous recommande les guides noirs de Tchou, c'est absolument extraordinaire. Vous pouvez suivre à la fois le Paris de Nadja, d'autres types de pérégrinations à travers Paris.
Nicolas Flamel,
etc. Et puis, j'ai adoré suivre aussi... Il y a des villes comme ça qui sont pour moi des villes alchimiques, enfin, des villes secrètes, des villes cachées, des villes dans lesquelles on a l'impression que se dit quelque chose d'une âme du monde que les institutions ne nous permettent pas toujours de voir. Je parle des institutions pas au sens politique, oui, mais des institutions de la vie quotidienne, tout ce qui bride notre vie quotidienne. Et cette révélation de l'âme du monde est quelque chose de... Alors on le trouve dans des villes qui pour moi sont des villes essentielles, comme Laon par exemple, cette espèce de...
Laon,
la ville de Laon.
Oui,
ouais,
oui. La ville de Laon est essentielle.
Ah, la ville de Laon est essentielle. La ville de Laon est une... c'est une sorte de roc, comme de rocher de Tomblaine sur la plaine de l'Est qui se dresse avec une cathédrale, avec un...
Avec la difficulté d'ailleurs de grimper sur le rocher.
Exactement. Il y a Bourges, avec les trois cercles successifs de la ville, c'est-à-dire l'extérieur avec la partie 19e, la ville des Arsenaux, ensuite à l'intérieur une ville un peu plus 18e, et tout au cœur de Bourges, à côté de la cathédrale, la ville Renaissance avec l'extraordinaire chapelle alchimique du palais de Jacques Coeur, à l'intérieur de laquelle on voit non pas des symboles religieux, mais des salamandres, des athanores, enfin tout ce qui est très... Alors des villes même moins alchimiques, mais des villes qui montre une espèce de rêve d'organisation, une espèce de rêve consistant à faire coïncider la ville en tant qu'institution avec le rêve d'une personne imaginative. Pour moi, l'une des villes dont je suis le plus... Enfin, il y a deux, trois villes comme ça dont je suis absolument fanatique, dans lesquelles j'ai passé beaucoup de temps. L'une est Odessa, évidemment, qui est sortie presque tout armée du cerveau de Richelieu. L'autre, vous savez, le ministre de Louis XVIII, qui était une personnalité absolument extraordinaire, qui avait fait appel pour construire Odessa à Thomas de Thomont, qui était un architecte et un disciple de Ledoux, celui qui a dessiné les salines d'Arquesnan. Et en fait, la ville d'Odessa, c'est la ville idéale, c'est la ville du XVIIIe, dans laquelle d'ailleurs Richelieu lui-même a imposé pour la première fois un empire russe qui n'aimait pas tellement ça, des choses qu'on aime beaucoup maintenant, qu'on appellerait maintenant le respect de la diversité. C'est-à-dire, il a donné des droits aux juifs, il a donné des droits aux non-orthodoxes. Quand vous allez dans la synagogue d'Odessa, on dit encore des prières pour notre père Richelieu. Il a donné des droits aux Tatars de Crimée. Et il les faisait vivre en coexistence. Lui-même d'ailleurs vivait comme une sorte de... Richelieu est un personnage extraordinaire dont je pourrais vous parler pendant des heures parce que j'adore les figures amusantes comme ça. C'était un Richelieu comme un Richelieu et qui ressemblait un peu au prince de ligne, vous voyez, comme un grand esprit du 18e, avec cette partie, dans l'idéal des Lumières, vous avez une partie qui mène à la Convention, puis vous avez aussi une partie aristocratique de l'idéal des Lumières qui s'arrête, si je puis dire, avant le rêve totalitaire. Et lui était tout à fait comme ça. Il s'était engagé aux côtés des Russes en abandonnant sa femme. On l'avait marié de force à 14 ans à une fille bossue qui était naine. Évidemment, ça ne lui plaisait pas beaucoup. Et du coup, il est parti se mettre au service des Russes et il vivait là-bas seul comme un saint, se nourrissant de côtelettes. Et l'un des seuls à ne pas s'être enrichi au cours de son gouvernorat. Et ensuite créant cette ville magnifique. Odessa est vraiment pour moi une ville comme ça. Une autre ville que j'aime énormément qui est Pondichéry. avec le canal de Gingy qui sépare la ville noire, ça, la ville hindoue de la ville blanche, et avec là aussi cette espèce de rêve du 18e où la présence occidentale paraît extérieure aux impératifs ethnocentrés de la colonisation. C'est-à-dire, vous avez l'impression que les gens qui sont venus là ont bâti des palais 18e parce que c'était leur rêve et non pas dans l'idée absurde de convaincre les populations indigènes des avantages de la civilisation occidentale. Ils trouvaient juste que c'était bien, que c'était beau. Et ça, ça me fait absolument rêver.
Et puis, il y a des personnages dont vont vous en parler, Inigo, Loyola, donc aussi le père de Foucault, qui sont des gens qui se déplacent, mais qui se déplacent dans leur vie.
L'ambiguïté de ma relation avec le surréalisme est que d'un côté je trouve ça absolument passionnant et c'est ça qui a certainement le plus stimulé mon imagination de jeune homme et d'homme jeune par la révélation existentielle que ça m'a donné. Mais en même temps, le surréalisme est toujours apparu comme une sorte de pastiche un peu légèrement kitsch du mysticisme, vous voyez.
Alors, il fallait aller à la source, il fallait voir les vrais mystiques.
Voilà, alors du coup, je me suis dit, c'est quoi quelqu'un qui décide de traverser réellement les apparences? Alors, il y a 40 000 manières de traverser réellement les apparences. Je me suis beaucoup intéressé aux écrivains du hasidisme, que ça, pour cette raison. Et au fond, Ignace, puis Foucault, mais surtout Ignace d'ailleurs, m'ont fasciné par l'effet, si vous voulez, de mise en danger absolue que même les surréalistes n'ont pas eu. Enfin, je veux dire, à aucun moment, même ceux qui sont engagés dans la résistance, même, il n'y a pas de mise en danger existentielle totale, comme il y en a une chez Ignace, comme il y en a chez Foucault, comme il y en a même chez Rimbaud, au fond, à la fois quand il écrit
et quand
il cesse d'écrire. C'est cette impression de la mise en danger radicale de laquelle on va tirer un enseignement et sur soi et sur l'ordre du monde. Et ça, ça m'a absolument fasciné. Mais j'en reviens 30 secondes à... Sans ça, je vais oublier quelque chose de... Il y avait aussi, puisqu'on parlait de... Puisque c'est une masterclass, l'idée de savoir comment on commence à écrire, il y avait aussi l'idée de... Non pas de suivre les mystiques, pour le coup, mais de... Parce que suivre les mystiques n'est pas quelque chose qui entraîne naturellement à la littérature. Vous connaissez le vers de Claudel, quand Claudel traduit les psaumes. « Parce que je n'ai pas connu la littérature, j'entrerai dans les puissances du Seigneur. » À certains égards, le mysticisme est incompatible avec la littérature. La littérature est en partie un jeu avec les apparences, un jeu avec le mensonge de la vie, un jeu, pour employer de grands mots, avec le péché. C'est l'une des raisons pour lesquelles Greene comme Mauriac ont été hantés toute leur vie par la question de savoir si, en dépeignant les passions humaines, il n'allait pas entraîner des esprits faibles vers des chemins qui n'étaient pas les bons, par exemple. Si on prend ces choses-là au sérieux, la littérature est un exercice dangereux. Un écrivain peut trouver de l'intérêt à la lecture des mystiques, comme Saint Jean de la Croix, par exemple, qu'Aragon adorait, qui est probablement l'un des plus grands poètes espagnols, mais il est clair que Saint Jean de la Croix n'a pas voulu faire une œuvre littéraire. Il a simplement exprimé en vers, comme si c'était sa langue naturelle, un sentiment mystique de même nature que celui de Sainte Thérèse d'Avila. Donc le mysticisme et la littérature ne font pas bon ménage. Et je pense qu'un écrivain qui, adhérerait à une foi ou serait convaincu des vertus du mysticisme, aurait des chances soit d'être un mauvais écrivain, soit d'arrêter d'écrire. Et tant mieux pour lui s'il arrête d'écrire, puisque le but pour lui ne serait pas d'écrire, mais de se rapprocher. Il y a un pis-aller dans l'écriture. Et quand on est un mystique, le mysticisme, mais c'est quand même la littérature est quand même l'œuvre de quelqu'un qui n'est pas détaché, si je puis dire, des réalités de ce monde. En revanche, tout ce qui, en dehors des mystiques, m'a toujours intéressé sur le plan littéraire, c'est vrai que j'ai aimé les suivre parce que je voulais les imiter. Quand j'étais petit, je voulais imiter Breton, je voulais imiter Apollinaire, je voulais imiter Rimbaud. Ben, ça a raté. Un type commence par vouloir imiter Rimbaud, il finit au Conseil d'État. On peut se dire que ça n'est pas absolument brillant. Ça me rappelle ce qu'avait fait Jack Lang autrefois, qui avait organisé une course des voleurs de feu de Paris à Charleville. Évidemment, comme il n'avait trouvé personne, j'imagine que c'était les employés des DRAC qui couraient avec des flambeaux de Paris à Charleville. Et l'idée de voir des fonctionnaires de l'État courir de Paris à Charleville et qu'on les appelle les voleurs de feu était quelque chose qui m'apparaissait absolument surréaliste. Bon. Donc c'est sûr que j'ai raté mon coup, si vous voulez, dans l'idée de ressembler à Rimbaud ou à Apollinaire, j'ai tout à fait raté. Mais c'est à eux que je voulais ressembler. Ma vocation d'écrivain, elle est née non pas de la lecture des œuvres, je vais vous faire un aveu qui me condamne entièrement, mais de l'impression produite sur moi par la vie des écrivains. Vous voyez, j'ai voulu devenir écrivain parce que vers 14-15 ans, je suis tombé sur cette collection des éditions du Seuil, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est les écrivains par eux-mêmes. Et il y avait des titres qui m'ont, et encore maintenant, si vous voulez, quand je sens que je faiblis, que j'arrive pas à corriger mes épreuves, que, etc., j'en fais tomber un au hasard, et je regarde ça, c'est des collections merveilleuses. Il y avait à la fois des photos assez simples, en noir et blanc, vous voyez, quelques éléments de la vie de l'écrivain, puis en général un très beau texte racontant brièvement ce qu'était cet écrivain. Et j'ai rêvé indéfiniment sur ces textes. Par exemple, Maurice Barrès, qui n'est pas un de mes auteurs de prédilection, Barrès par lui-même a été fait par Domnac. Et le rapport entre la vie et l'œuvre était manifesté, pour le meilleur et pour le pire d'ailleurs dans le cas de Barrès, était manifesté dès la première page, à la couverture, sur la couverture, quand on ouvrait l'intérieur, on voyait une ligne de soldats de l'infanterie progressant vers le feu en 1914, précédé par un officier, l'épée à la main. Et en dessous, il y avait simplement cette citation de Barrès, « Se refaire une âme complète ». Alors, vous lisez ça, vous dites, il y a un moyen peut-être de faire se rejoindre la vie et l'art, essaie d'imiter ces gens-là. Et puis plus tard, quand j'ai connu, comme tout le monde, les épreuves et les traverses de l'existence, je lisais plus volontiers le Joyce. Et dans le Joyce, vous savez que Joyce était très pauvre. Et Joyce est mort très pauvre. Et on voyait une des premières pages, on voyait une photographie avec les comptes qu'il faisait quand il était à Zurich. 3 sous 50, là, 2 francs suisses, il dépensait 1 franc 50 pour sa teinturerie, etc. Et simplement en bas, il y avait écrit les mots « J'ai payé mon dû », qui est une citation d'Ulysse. Voilà. Et j'ai voulu ressembler à ces... En fait, j'aurais voulu toute ma vie, comme un enfant, quoi, ressembler à ces gens-là.
Mais vous dites que, quand vous parlez de littérature, vous dites « J'ai choisi d'entrer en littérature ». Qu'est-ce que ça veut dire entrer en littérature? Comment on rentrerait dans les ordres? Alors que, par ailleurs, avocat, conseiller d'État, etc., c'est quoi l'entrée en littérature qui, d'une certaine façon, vous empêche d'être vraiment, peut-être, ce que vous êtes ailleurs, dans la vie civile? Qu'est-ce que cette frontière que vous donnez à vous-même, d'une certaine façon?
Alors, d'abord, c'est vrai que ça m'empêche complètement. C'est-à-dire que, cela dit, j'aurais sans doute pas fait une grande carrière dans les autres trucs, hein, mais c'est vrai que ça m'empêche.
Ça va, comme avocat.
Non, mais ça va, quoi. Je veux dire, voilà, quoi. Bon. Mais, en tout cas, ça a eu, qu'est-ce que ça représente et qu'est-ce que ça a eu comme effet? Ce que ça représente, c'est que, en fait, entrer en littérature n'est pas un bon terme parce qu'on a l'impression qu'il y a un avant et un après. J'ai toujours eu l'impression que j'avais toujours été un écrivain, que j'avais été fait pour faire ça, que c'était ma seule manière de vivre consistait, alors on pourrait le dire de manière un peu pessimiste en disant de vivre en se regardant vivre, quoi, vous voyez, ce qui est le propre des écrivains qui vivent en partie double, et où même le chagrin d'amour, si vous voulez, peut, en même temps qu'ils les torturent, peuvent espérer qu'ils en sortiront quelque chose. Donc il y a eu le fait que je ne me suis jamais senti quelque chose d'autre que ça, et j'ai toujours travaillé à essayer de devenir ce que j'étais profondément, c'est-à-dire ça. Et en revanche, ça a eu un autre effet, dont maintenant, en vieillissant, je suis extrêmement content, c'est que ça m'a absolument privé de toute ambition. Ça m'a privé de toute ambition. Bon, je suis avocat, donc j'essaye de faire bien mon métier, etc., mais j'ai jamais voulu, d'une certaine manière, y occuper les premières places, j'ai jamais voulu faire de politique, j'ai jamais voulu être dans l'administration, j'ai jamais voulu être quelqu'un qu'on reconnaît dans la société à raison des places qu'il occupe ou des fonctions qu'il exerce. Et c'est la littérature qui m'aura fait vivre toute ma vie en voyageur, d'une certaine manière. Et à la fois, j'aurais pas pu vivre autrement, et je lui en suis très reconnaissant, à la littérature.
Grâce à Camille Bergeau?
Ah, grâce à Camille Bergeau, absolument, qui était... ça m'émeut beaucoup que vous l'évoquiez. Camille Bergeau était mon professeur de lettres en première. J'étais chez les Jésuites, et il avait fait toute sa carrière, il était inspecteur général de l'éducation nationale, il était en retraite. Il avait été pendant plusieurs années le conseil culturel de Kemal Atatürk. Il était détaché auprès de Kemal Atatürk en Turquie. Il avait créé le lycée français d'Istanbul. Personnage absolument étonnant, dont la légende, colportée par les pères jésuites, disait qu'il avait été à un moment l'amant d'Isadora Duncan. Alors ça ne dit rien plus vieux d'entre vous, mais moi ça me fascinait parce que déjà, comme j'adorais déjà quand j'étais jeune les histoires des générations qui me précédaient, et le fait que mon prof était l'amant d'Isadora Duncan. Alors Je tiens à vous dire qu'il m'apparaissait extrêmement vieux, M. Bergeau.
Isadora Duncan, il faut préciser, c'est la danseuse.
La danseuse extraordinaire qui est morte d'un. Vous savez,
quand. Dans sa voiture avec son écharpe.
Son écharpe s'est accrochée aux roues, elle est morte, voilà. Et M. Bergeau me paraissait immensément vieux. C'était Mathusalem. Il avait quelques années de moins que moi maintenant. Et il me paraissait extrêmement vieux. Et c'était. Il a été vraiment. Il m'a ouvert les portes de ça en montrant que la littérature n'avait rien à voir avec. Je me souviens, j'étais bon en première, je passais le concours général, etc. Et je lui dis, il était normal. C'est un normalien de la promotion 24, qui était la promotion de Nizan. Et celle de Sartre, d'ailleurs aussi. Et donc, au bout d'un moment, évidemment, avec un réflexe d'identification, je dis, je vais rentrer à la rue d'Ulm. Et il me dit, mais non, oubliez tout ça, vous voulez rentrer à la rue d'Ulm parce que vous avez l'idée que la littérature a à voir avec la rue d'Ulm, n'a rien à voir avec ça. Vous êtes fait pour être un écrivain, faites n'importe quoi. Soyez commerçant, militaire, médecin, quincaillier, etc. Et écrivez les livres que vous avez à écrire. Mais surtout, ne mélangez pas la littérature à l'institution. N'importe quelle institution, même la rue d'Ulm, que j'ai tendrement aimé, ne mélangez pas littérature à ça. Vous êtes absolument pas fait pour faire ça. Deux choses de lui me reviennent là et qui étaient fascinantes. Il nous parlait de Proust. Il parlait de Proust à des 15 ans en première. On vous parle de Proust. Vous ouvrez La Recherche du Temps Perdu. Ça vous paraît quand même assez surprenant. Et on commençait à lire ça. On dit mais c'est chiant comme la pluie. Il se passe rien. Enfin c'est horrible. Et il nous dit mais si il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose dans la phrase. Il dit mais comment ça monsieur? Il se passe quelque chose dans la phrase. Alors il se dressait. On voyait qu'il avait été très beau. On voyait que comment il avait pu séduire Isadora Duncan, ça nous impressionnait beaucoup. Très beau, très bien habillé comme ça. Il se mettait sur l'estrade et puis il récitait La Recherche du Temps Perdu. Il la récitait, il pouvait la réciter pendant des heures. Et toujours, vous voyez, je vais vous dire ce que c'était Proust. Et toujours viendrait comme un flot de nouvelles princesses de Guermantes, ou plutôt non. Une seule princesse de Guermantes victorieuse de la mort. Le nom seul refermant sur celle qui sombre de temps à autre, sa toujours pareille placidité immémoriale. Voyez, messieurs, il aurait pu raturer, mais dans la littérature, la vraie, comme dans la vie, on ne rature pas. Il aurait pu écrire, au lieu de dire, ou plutôt non, il aurait pu écrire une seule princesse de Guermantes, victorieuse de la mort, etc. Bon. C'est pas ça qu'il a écrit. Il a écrit, ou plutôt non. Une seule princesse de Guermantes, victorieuse de la mort, ou plutôt non, la littérature et la vie, c'est la même chose. Et l'autre qui nous avait fait aussi un jour, c'était Pascal. Parce que quelqu'un se plaignait d'avoir eu une mauvaise note sur un truc de syntaxe qu'il déconnait, ou un machin de grammaire quelconque. Et Bergeau dit, mais le mot, messieurs, le mot, la tristesse du monde, l'espérance du monde est dans le mot. Par exemple, le français, vous n'avez pas le droit de l'écorcher. C'est la seule langue au monde dans laquelle on peut lire. On jette une pelletée de terre. À la fin, quelle qu'était belle la comédie et tout le reste. On jette une pelletée de terre sur la tête. Et c'en est fini pour jamais. Et ce jamais, qui veut dire toujours, c'est l'essence même de la littérature. Alors, je vous garantis. En première, je vous garantis pas qu'on comprend tout de suite. Mais des années après avoir un peu vécu, après avoir un peu roulé, l'ombre de Monsieur Bergeau ne cesse pas de vous accompagner.
D'autant que, du coup, Proust et Pascal sont deux des références que vous citez tout le temps.
Oui.
Lorsqu'il s'agit de penser, avec évidemment Alexandre Dumas, Le Comte de Monte Cristo, Les Trois Mousquetaires, Stendhal, Chateaubriand.
Alors il y a trois parties là-dedans. Il y a la partie des auteurs inaccessibles, il y a la partie des auteurs que j'adore et qui me distrait, puis il y a la partie des auteurs dont je comprends le fonctionnement. C'est pas toujours les mêmes. Alors les auteurs inaccessibles, c'est les deux dont je parle. C'est-à-dire
Pascal,
Proust et Pascal sont pour moi évidemment inaccessibles pas quand on les lit, mais en tout cas inimitables. Et Pascal, c'est pareil, il est absolument indépassable. Parce qu'il est du côté de la mystique, on a l'impression qu'il est un immense écrivain malgré lui. Cette langue de feu qui fait passer les marchandises du salut en fraude et la nuit tombée est quelque chose dont on voit bien qu'elle vise autre chose que l'art. Et ça d'ailleurs, ça donne une occasion de méditation absolument incroyable, parce qu'on se rend compte que, de même que la plus grande preuve d'amour ne réside sans doute pas dans le mot d'amour lorsqu'il est dit, de même, mais dans l'acte, bon, de même, l'art, on se rend compte qu'un art extraordinaires, comme les provinciales, comme les pensées, procèdent de quelque chose d'autre que le désir de faire de l'art. Ce qui est une leçon absolument absolument incroyable, et Pascal m'a toujours absolument fasciné par ça, et par le rapport qui existait entre sa vie et son art, parce que c'est assez fascinant. Pascal, tout de même, il était gay. Mauriac dit quelque part, Molière, l'homme qui voulait faire instruire le peuple et sourire les grands au spectacle des vices, s'enferme et pleure dans la coulisse avant d'y mourir. Alors que Pascal était gay, tous les témoins du temps expliquent que Pascal était gay. Et les pensées sont extraordinaires, comme un mouvement de l'énergie et de cette gaieté qui tirait de son mysticisme, puisque, en fait, c'était un janséniste, il croyait tout de même à la prédestination. Si on croit à la prédestination, qu'est-ce qu'on va s'emmerder à faire une apologie pour les libertins ? Ben oui, à quoi ça sert ? De toute façon, le truc est joué d'avance, enfin, on va peut-être pas gâcher son beau talent. Eh bien non. Eh bien non, en réalité, il ressemble là-dessus à Thérèse de Lisieux qui voulait prier même pour les damnés, quoi. Vous voyez, il a une idée absolument transcendante de son rôle dans le monde. Et au fond, l'art n'est qu'un copeau. Vous voyez, l'art, c'est voilà, il parlait, il écrivait, et il nous en reste quelque chose qui a l'air écrit avec du feu, mais qui n'était pas de l'art. Enfin, il ne voulait pas en faire de l'art. Et ça a à voir avec ce que vous disiez sur Dumas, parce que au fond, j'aime aussi l'art quand il n'est pas de l'art pour l'art, voyez. Je suis presque un peu anti-Nabokovien pour ça. Je sais que j'adore Nabokov, mais j'aime l'art quand il... Je trouve que l'art atteint son plus haut degré de qualité comme art quand l'auteur s'est proposé de faire autre chose que l'art. Proust, au fond, s'est proposé de trouver une issue à son angoisse existentielle. Vous savez que c'est la raison pour laquelle il disait que chacun d'entre nous, nous devrions écrire notre propre recherche du temps perdu. Dumas s'est proposé le divertissement. Il s'est proposé de nous divertir, de nous faire rêver, de nous émouvoir. Et ça marche. Et ses œuvres sont des œuvres d'art exceptionnelles parce que leur auteur ne s'est pas proposé de, d'une certaine manière, faire de l'art. Et dans ce lien mystérieux entre la vie et cet art fait comme, malgré soi, se noue pour moi ou se constitue une figure de l'écrivain qui est profondément attirante et qui est celle à laquelle je voulais ressembler lorsque j'étais enfant.
Alors, vous avez aussi, et ça c'est votre vie, participé à des opérations militaires. Je l'ai dit, vous étiez dans la réserve de la Légion étrangère. La guerre qui est décrite par beaucoup d'écrivains, est-ce que vous l'avez si souvent décrite? Vous l'avez décrite dans L'Obéissance, par exemple, cette guerre avec l'absurdité de la volonté de faire traverser une frontière en guerre à une guillotine parce qu'il en manque de l'autre côté de la frontière, du côté de la Belgique. Tout cela, ça fait partie de cette description de la guerre. C'était la guerre de 14, bien évidemment. Est-ce que cette description de la guerre, vous étiez à Sarajevo, vous avez vu... Quand vous en parlez, d'ailleurs, vous dites, vous parlez de la mission des marchands de glace, vous trouviez à ce moment-là, avec ces envoyés européens en uniforme blanc, c'est déjà une description d'écrivain, cette mission des marchands de glace.
Oui, c'est très difficile de parler de la guerre ou de la guerre, qui est un truc extrêmement, c'est banal de dire ça, la guerre est une chose extrêmement pénible, naturellement. M'a moins intéressé, même comme élément de mise en danger personnel. Il y a probablement eu dans mon désir d'y aller quelque chose qui tenait au fait que les générations supérieures de ma famille y étaient allées et que peut-être je ne voulais pas être le seul à ne pas avoir vu à quoi ça ressemblait, vu que ça les avait visiblement frappés. Bon. Mais ce n'est pas ça l'essentiel. L'essentiel, c'est que, en fait, la vie de manière générale, et en particulier la vie de l'écrivain, consiste, je pense, à s'arranger de choses qui vous sont données, dont on pressent ce que je disais au début, qu'elles ne sont pas la totalité du monde, mais de choses avec lesquelles il faut bien s'arranger. Des choses qu'on ne peut pas totalement maîtriser, des choses qui existent, des choses qui sont là. Et là-dessus, c'est une chose dont le soldat fait véritablement l'expérience limite. C'est-à-dire d'être là, d'être soumis à des décisions politiques que le plus souvent il ne comprend pas ou qu'il ne partage pas, de ne pas pouvoir s'en aller, de ne pas même désirer s'en aller, parce que simplement, il désire rester avec ses camarades. Et faisant à ce moment-là, de manière réduite, violente et concentrée, l'expérience de la solidarité de la nature humaine, vous voyez, de quelque chose de profondément solidaire, quel que soit le caractère horrible de cette activité en général. Et ça, pour moi, ça avait confusément à voir avec la littérature, et qui fait que je me suis toujours d'ailleurs déplacé à l'aise dans la partie de la littérature qui m'avait l'air écrite par de vrais soldats. Je veux dire pas Barbus, pas Dorgelès. Mmh. Mais Junger dans Rage d'acier, Peggy et surtout Genevoix dans ce 14, vous connaissez ce sentiment qui pour moi reste le sentiment des soldats, qui est quand il décrit un train de blessés en 1915 et il dit il y a des gens dans les chariots comme ça et il y a des gens qui crient, on se demande et on est exaspéré par le fait qu'ils crient parce qu'ils ont mal ou qu'ils gémissent et on entend une voix qui dit assez j'ai mal et on ne voudrait le faire taire. Et à ce moment-là, on se rend compte que c'est soi-même qui est en train de parler. Voilà. Ça, cette expérience-là est une expérience qui est, au fond, l'expérience poussée au rouge ou à l'incandescence de la nature humaine. Et je la trouve passionnante. Enfin, passionnante, j'essaye de trouver le bon mot. Mettons ce mot entre parenthèses. Vous voyez, je la trouve révélatrice, bouleversante à certains égards, sans compter le fait que la condition des soldats efface les origines sociales, efface les différences confessionnelles, efface tout devant cette impression d'un monde absolument dangereux, radicalement dangereux et radicalement indéchiffrable. Les Anglais enterrent, nous on a la tombe du soldat inconnu sous l'Arc de Triomphe, et les Anglais ont enterré leur soldat inconnu dans une cathédrale à Londres, et sur cette cathédrale il y a écrit « Ici repose un soldat inconnu ». Dans la seule compagnie des poètes et des rois. Voilà. Alors, quand on le regarde, on dit c'est un peu kitsch. Ça. En fait, non, c'est pas kitsch du tout, parce que ces trois catégories de personnes ont en commun d'avoir pas choisi leur destin. Le soldat a été envoyé où on lui a dit d'aller. Le roi est roi, non pas parce qu'il l'est devenu, mais parce qu'il est le fils de son père. Et le poète est habité par son démon intérieur. Ce sont les trois catégories de personnes qui n'ont pas choisi véritablement leur destin. Et vivre dans leur compagnie, dans la compagnie de ceux qui n'ont pas choisi leur destin, est quelque chose qui m'a beaucoup appris.
Alors vous parliez des poètes et des rois, la poésie aussi compte chez François Sureau, écrivain, comme lecteur, mais aussi comme poète soi-même. Quelle est la différence entre écrire des poèmes et écrire des romans, des essais, des libelles?
Alors, je trouve qu'on écrit des poèmes comme on chante. Alors, moi, je suis j'écris pas de la vraie poésie, vous voyez ce que je veux dire, parce que, j'ai été ravi qu'un éditeur accepte de publier mes poèmes.
Ça marchait tout de même.
Ça marchait, mais ce que je veux dire, c'est que je ne me prends pas pour un poète et j'ai écrit des choses qui étaient en fait dictées très largement par mon amour de deux poètes que j'ai beaucoup aimés, deux ou trois poètes que j'ai beaucoup aimés, Apollinaire, Blaise Cendrars, vous voyez bien qu'ils ont quelque chose en commun entre...
Il y a la guerre aussi, là.
Il y a la guerre aussi pour les deux, oui. Et Apollinaire, Blaise Cendrars et La Tour du Pin. Et au fond, c'est une espèce de... Je leur ai emprunté peut-être une partie de leur musique pour parler de choses qui m'étaient chères. Par exemple, vous disiez que j'avais pas du tout parlé de la guerre, des théâtres d'opération, etc. C'est parfaitement vrai. Le seul endroit où j'en ai parlé, c'est dans la poésie. Parce que ça m'était presque plus facile de mettre ça à distance. Et puis, il y a une immédiateté dans la poésie qui vous donne l'impression... ça me gênerait par exemple d'écrire un texte amoureux trop violent, vous voyez. En revanche, mettre de l'amour dans un poème, ça va. De même Apollinaire, vous n'imaginez pas, alors bon, il a écrit Les Lettres à Loup bien sûr, mais il n'y a pas de plus beau poème que Aux lentes, lentes nuits ou Mon fusil si lourd, je pense à toi mon loup pendant la faction, ça. Il y a des choses qui ne peuvent se dire que de cette manière là et c'est la raison pour laquelle, et en plus je parle là de poésie, parce que au fond, c'est ce que je vais dire paraîtra une monstruosité au professeur de lettres, mais il y a quand même deux courants dans la poésie. Il y a celle qu'on peut mettre en chanson et celle qu'on peut pas. C'est-à-dire, il y en a une qui chante dans votre tête.
Il y a Aragon.
Il y a Aragon, Apollinaire, Verlaine, chante dans votre tête. Bonnefoy, la Tour du Pin chante aussi. Bonnefoy, Rimbaud, Mallarmé, Valéry ne chante pas. enfin à mes yeux du moins. Et moi, je suis un type qui, c'est pareil, c'est comme les promenades, je veux dire, quand je me promène dans Paris, je chante sans arrêt. Et donc, je chante de la poésie. Mais ça a à voir avec moi, avec une manière d'apprivoiser le monde. La poésie a à voir avec moi, avec une manière d'apprivoiser le monde, de le rendre plus vivable, d'en supprimer les aspérités, quoi, si je puis dire. Je pense que derrière toute vie d'écrivain, il y a cette idée, alors à laquelle je ne voudrais pas donner un tour sinistre, naturellement, mais que si le monde n'est pas habitable sans littérature, sans poésie, c'est que il est trop difficile sans ça. Vous voyez ce que je veux dire? Qu'il y a trop d'aspérité auquel on se blesse. Qu'il faut limer l'écorce du monde pour arriver à le rendre un peu habitable. Et je crois que c'est ça qui fait écrire, et je crois que c'est aussi ça qui fait lire d'une certaine manière.
Comment fait-on pour ne pas, quand on a une mémoire comme la vôtre, François Sureau, pour ne pas réintégrer dans une sorte de plagiat involontaire ce qu'on a lu, ce que l'on sait, ou ne pas faire de pastiche de ce qu'on a déjà lu? C'est-à-dire, comment fait-on pour garder sa propre plume, sa propre vision du monde, sans être dans la citation ou dans le pastiche?
Ben, je sais pas si je l'ai toujours évité, d'ailleurs. Enfin, je veux dire, je me souviens, par exemple, dans mon premier livre, j'ai écrit une phrase dont j'étais hyper fier. C'était « J'étais un enfant triste et que tout blessait ». Je trouve ça magnifique. Moi, c'est parfait. C'est génial. J'ai relis cette page. J'assure épreuve. J'ai dit quand même, t'es quand même très fort, quoi. Moi, j'étais un enfant triste et que tout blessait. C'est beau, c'est simple. On voit très bien ce que ça désigne. Et puis le livre paraît, etc., etc. Et puis, 20 ans après, mes copains me disent, t'es quand même, tu charries quand même d'avoir piqué ce truc dans Mauriac. J'étais un enfant triste et que tout blessait. Et je ne m'étais pas du tout rendu compte que je l'avais piqué dans Mauriac. Je vous prie de le croire. Et simplement, c'était dans Mauriac. Je l'avais piqué dans Mauriac involontairement. Il y a plein de choses. D'abord, on prend, quand on est hypermnésique, et quand on aime vraiment totalement la littérature comme une respiration, si vous voulez, on a parfois l'impression qu'on est simplement la partie d'une espèce d'énorme courant littéraire, et qu'on nage porté sur les espèces de flux souterrains que sont Chateaubriand, Balzac, voilà, et que de temps en temps on se laisse porter par eux, qu'on prend leur rythme, qu'on prend, et puis je pense que progressivement et à travers tout ça, on finit par trouver sa voie. Je ne sais pas si j'ai trouvé la mienne. Je crois que personne ne peut le dire d'ailleurs. Mais on finit par trouver sa voie quand on finit par se rendre compte que même si on les a aimés profondément, eh bien, on ne voit pas tout à fait la vie de la même manière que Chateaubriand ou Proust. Oui, qu'on ne voit pas la vie de la même manière que. Et c'est un déchirement parce que. On rentrait dans leur œuvre comme dans un bain chaud. Vous voyez ce que je veux dire? On était comme avec des amis. Quand on était avec des amis, on est content de partager exactement la même vision du monde. Et donc, on se dit, après tout, je suis avec des amis, je partage la même vision du monde. Et c'est pas gênant. J'écris comme Chateaubriand, j'écris comme Proust. Enfin, au talent près, naturellement. Mais c'est parfait. Et puis, au bout d'un moment, en fait, on sort du bain. On se rend compte qu'on...
Il fait plus froid.
Ouais, on se rend compte qu'on s'est baigné beaucoup avec eux, que le bain qui était chaud est devenu tiède, que le robinet est un peu trop loin pour qu'on puisse le manier avec les pieds, ce qui arrivait autrefois dans les grands hôtels géniaux du 19e. Vous savez, vous étiez dans votre bain, une grande baignoire profonde, vous pouvez manier le robinet avec les pieds pour refaire couler de l'eau chaude, et là, vous ne pouvez plus. L'eau refroidit progressivement, vous êtes là tout seul dans votre bain avec Pascal et Chateaubriand, puis vous sortez du bain, il fait beaucoup plus froid, et vous dites, mais... En fait, j'étais bien dans ce bain, mais ce bain, c'est pas tout à fait moi, quoi. Je veux dire,
il y en a un avec lequel vous pouvez continuer à vous baigner, c'est Simenon.
Absolument. Alors, avec Simenon, je continue à me baigner parce que je suis insusceptible d'être contaminé par son style. C'est un écrivain que je trouve absolument immense et dont ni le style ni la représentation qu'il se fait de la vie ne me conviennent. Et pourtant, je l'adore et il me distrait profondément. Mais ni son style, ni la représentation de la vie me conviennent. Je le vois comme Simenon est pour moi comme le croissant au beurre, vous voyez, c'est pas bon d'en manger. Ça vous apporte rien. C'est quand même assez délicieux, mais c'est pas votre truc, le croissant. Profondément, vous savez que le matin, vous préférez les rillettes avec le vin blanc, ce qui est mon cas. Mais c'est quand même pas mal, de temps en temps, il y a quelque chose se passe avec ce croissant, voilà. Et on ne peut pas s'en passer. J'aurais passé 40 ans à lire Simenon, comme 40 ans à manger des croissants, mais c'était pas vraiment mon truc, voilà.
Sauf sur, et là, on rejoint l'expérience du Conseil d'État, du droit, en jouant aussi l'expérience de l'avocat, sauf sur la question des hommes, sur ceux qui sont
À moitié coupable, à moitié innocent, oui, sauf sur la question du mal, d'une certaine façon, que Simenon décrit différemment des autres. Il est très loin des mystiques dont vous parliez tout à l'heure, parce que aucun de ces hommes n'est véritablement mauvais, aucun n'est véritablement un saint. On est quelque part entre les deux.
Oui, alors ça pour le coup, j'exagérais en disant que j'avais rien de commun dans ma représentation du monde avec lui. Certainement ça, c'est-à-dire le fait que le mal chez lui n'est pas romantique, il ressemble au diable de Bernanos, quoi. Vous voyez, le mal chez lui n'est pas romantique, il est mêlé au bien, il traverse les circonstances de la vie, il a à voir avec l'univers matériel, financier, personnel, et au fond, il y a, vous savez que sa devise qu'il avait fait faire en forme d'ex-libris, c'est comprendre et ne pas juger. Et c'est en ce sens où Simenon, qui était enfant de cœur dans sa jeunesse, on voit d'ailleurs que Maigret est enfant de cœur dans un assez grand nombre d'enquêtes, enfin, où se souvient d'avoir été enfant de cœur d'enquêtes, c'est-à-dire qu'il a cessé de croire au dogme, très certainement, mais il n'a pas cessé de croire que le bon grain est mélangé à l'ivraie jusqu'au jugement final, et que le jugement final est un jugement que les hommes ne peuvent pas prononcer. Ça, c'est les deux choses qui sont centrales dans l'œuvre de Simenon, c'est-à-dire que le bon grain est mélangé à l'ivraie et les hommes ne peuvent pas prononcer le jugement final. C'est ce qui fait pour moi, d'ailleurs, de Simenon l'un des auteurs les plus subversifs de la période contemporaine, puisque vous observerez que la période contemporaine cultive les deux illusions radicalement inverses à ce que Simenon dénonce. C'est-à-dire que nous pensons que le mal peut être séparé du bien et sorti du bien. Si je fais une embardée 30 secondes dans le champ de la politique, la déchéance de nationalité ne s'explique pas autrement que par cette idée que nous pourrions sortir de nous-mêmes les gens qui ont fait le mal afin que, cessant de nous appartenir, ils restent purs. Ça, c'est le premier élément. Et le deuxième élément, c'est que nous pensons véritablement qu'il peut y avoir un jugement immédiat sur cette terre qui se manifeste, par exemple, par le jugement judiciaire. En ce moment, il y a des tas d'affaires horribles qui défraient la chronique, politiques, sexuelles, etc. Et je suis absolument fasciné de voir, c'est une expérience nouvelle pour quelqu'un de ma génération, la violence avec laquelle on en appelle à la justice, au jugement, à la condamnation, à l'emprisonnement, de manière absolument systématique. Pour Simenon, le châtiment... Et pourtant, Simenon n'est pas un auteur religieux. Hein, le châtiment est presque aussi injuste que le crime lui-même. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire, pour Simenon, le crime est horrible, mais aucune accusation n'est juste. Et il n'est pas du tout relativiste. C'est quelqu'un qui distingue très très bien le bien du mal. Et le commissaire Maigret distingue très bien le bien du mal. Simplement, il lui semble que les hommes, à raison de leur faute propre, sont insusceptibles d'inventer des institutions capables de punir entièrement à bon escient, le « entièrement » est important, et en plus n'ont pas la légitimité morale qu'il leur faudrait pour condamner leurs semblables. Cette espèce de suspension du jugement, elle va avec l'univers romanesque, parce que si vous ne croyez pas à cette suspension du jugement, vous ne pouvez pratiquement pas écrire un roman. J'adorais, dans ce genre différent de la faute morale ou de la faute judiciaire, mais il y a une petite nouvelle d'un auteur dont je ne suis pas absolument fanatique, mais qui a du talent quand même, qui est Morand. Dans une nouvelle extraordinaire qui s'appelle La glace à trois faces. Je ne sais pas si vous vous souvenez de La glace à trois faces. La glace à trois faces, c'est un très bel exercice littéraire en plus. Il y a Morand, qui est le narrateur, rencontre trois femmes. Et chacune de ces femmes lui explique qu'ils sont des femmes très différentes. Elles sont d'âge différent, de conditions sociales différentes, d'état d'esprit différent. Et chacune de ces trois femmes lui fait un portrait de l'homme qu'elle aime. Et ce portrait est extraordinaire. Il y en a un qui baisse tout le temps, il y a celui qui baisse jamais, il y a celui qui parle de culture toute la journée, l'autre est complètement inculte, il y en a un qui veut tout le temps rester chez lui, et le troisième qui veut tout le temps sortir. Enfin, vous voyez, c'est trois portraits d'hommes radicalement différents faits par trois hommes.
Trois femmes
entièrement différentes. Et qu'est-ce qui se passe ? Évidemment, le meilleur ami du narrateur meurt dans un accident de voiture, il va à son enterrement. Et à son enterrement, il découvre les trois femmes. C'était un seul homme vivant parallèlement avec trois femmes, que chacune décrivait de manière absolument, et chacune décrivait cet homme de manière absolument radicalement et totalement différente. Ça, c'est l'expérience de la nature humaine. Je trouve très fascinant, d'ailleurs, dans le monde actuel, que parce que simplement nous avons cessé de pouvoir donner un sens au mal, de pouvoir l'admettre, de pouvoir essayer de le civiliser, de c'est de pouvoir peut-être aussi lui donner un sens transcendant. Au fond, le mal nous est devenu à ce point insupportable que nous ne supportons pas la manière dont il est mêlé au bien à l'intérieur de chacune de nos vies. C'est quelque chose de très très frappant, mais très très actuel.
Si je parlais de Simenon, c'est parce que Le Chemin des Morts, par exemple, qui raconte votre aventure de jeune auditeur au Conseil d'État, raconte cette histoire-là. Et on pourrait la trouver chez Simenon, c'est-à-dire un personnage droit, honnête, vous, et les gens qui vous entourent, section du contentieux.
La commission de recours des réfugiés.
Vous rendez un jugement sur un Basque qui a abandonné la lutte armée depuis longtemps, qui a d'ailleurs s'est séparé assez violemment de ses proches compagnons, et revient cette question lancinante bien plus tard de ai-je bien fait ? Et d'une certaine façon, on peut y voir un peu Simenon.
Oui, parce que c'est un livre sur l'indécidable, c'est-à-dire que les juges qui rendent cette décision, juste après que l'Espagne soit redevenue démocratique, décident de doter le statut de réfugié à un Basque anciennement terroriste, mais qui a abandonné le terrorisme, et donc de favoriser, si je puis dire, enfin d'entraîner son retour en Espagne. Cette décision est très certainement bonne. C'est-à-dire l'Espagne avait été redevenue démocratique, ça aurait été infligé un camouflet incroyable aux Espagnols que de dire bien que vous soyez revenu démocratique, on vous croit pas du tout, donc on va garder ces types chez nous. Ça, c'est le problème classique à l'heure actuelle de l'extradition des Italiens des années de plomb vers l'Italie.
Exactement.
Voilà. C'est exactement la même chose. Et donc, je me souviens très bien des circonstances dans lesquelles cette décision a été rendue. Elle a été rendue en toute conscience. Oui. Elle a entraîné la mort de l'homme en question, puisque dès qu'il est passé en Espagne, il a été assassiné par les polices parallèles liées au franquisme. Mais elle a été prise en connaissance de cause, pour des bons motifs, en pesant le pour et le contre, sans aucune légèreté, sans que nous autres juges nous ayons été achetés, corrompus, sans qu'on soit exagérément esclaves de nos préjugés. Et pourtant, il en est résulté une catastrophe humaine. Alors après, on s'interroge sur les motifs de la catastrophe humaine, mais ça, c'est cette indétermination-là, qui est celle de l'action, qui est celle de la vie. C'est fascinant de voir chez Simenon comment elle nourrit la totalité de son univers romanesque.
Est-ce que la littérature, François Sureau, a permis, du moins telle que vous la voyez, de vous améliorer?
On peut dire
la littérature, l'écriture, oui. Ou la vie, quoi. Est-ce que c'est, oui, l'écriture, ou est-ce que c'est la vie qui fait que change?
Alors oui et non. Change? Alors, je pense que oui et non. C'est-à-dire que d'abord, elle m'a permis de survivre. Je voudrais pas donner à tout ça un caractère exagérément dramatique, naturellement, mais elle m'a permis de survivre parce que je sais maintenant que je n'aurais pas pu vivre sans écrire. Dussé-je même ne pas être publié. C'est comme la lettre de Villande, quoi. Si j'étais sur une île déserte sans éditeur, je continuerais à écrire des livres parce que c'est vraiment ma respiration propre, de même qu'il y a des peintres qui continueront à peindre, de même que... Donc je sais que... je ne sais pas si d'abord elle m'a amélioré, mais en tout cas, elle m'a permis de vivre. Sans elle, je n'aurais pas vécu, pas seulement pas vécu une autre vie, mais je pense que je n'aurais tout simplement pas vécu. Après, elle m'a fait autant de bien qu'elle m'a fait de mal. Elle m'a fait du bien parce que, pour des tas de raisons dont certaines sont très prosaïques, par exemple écrire des choses qui vous tiennent à cœur et se rendre compte que des lecteurs, même s'ils ne sont pas 800 000, les partagent, est une expérience de communauté humaine, vous voyez, de les plus troublantes et les plus frappantes et les plus réconfortantes de l'existence. Bon. Donc ça, évidemment, ça fait du bien. Elle m'a fait du bien aussi en me forçant à... je trouve qu'on écrit bien en se tenant à égale distance de soi et des autres. Alors, j'étais comme beaucoup, il y a peut-être comme tout le monde, mais particulièrement un esprit extrêmement égocentrique. La littérature m'a plongé dans l'univers d'autrui. Vous voyez ce que je veux dire? C'était d'écrire, d'inventer des personnages, de regarder ce qui se passe autour de soi, d'être touché par des destinées différentes de la sienne.
On prend des notes quand on marche, par exemple?
Ah oui, absolument. Oui. Je prends pas de notes, c'est-à-dire que comme je suis hypermnésique, ouais. Vous voyez, je note mes propres phrases dans ma tête, et puis je m'assieds à un café, et ensuite je les écris. Et au fond, peut-être que la littérature m'a rendu meilleur en me permettant d'avoir avec le monde et avec les autres des relations plus apaisées, moins prédatrices, comme on dit maintenant, vous voyez, que je n'aurais eu sans la littérature. En revanche, elle a certainement constitué un obstacle à mon perfectionnement spirituel, un obstacle à mon perfectionnement moral, en m'inclinant à cultiver des choses idiosyncrasiques, personnelles, narcissiques, liées au passé, liées à la nostalgie, liées au temps, dont j'aurais peut-être eu l'avantage à me détacher. Donc ça n'est pas une activité, ça n'est pas une activité neutre.
Et parce qu'elle, elle empêche la quête de perfection,
parce qu'elle empêche
l'idéal de mystique.
Oui, parce qu'elle empêche. Alors le mystique, je suis pas vraiment un mystique, hein. Mais
non, mais enfin,
ce que je veux dire, c'est que oui, elle empêche, elle gêne ce détachement à travers lequel on peut espérer comprendre quelque chose de l'au-delà du monde et qui suppose. Un détachement. J'aurais fait exactement le chemin inverse de celui de Pascal, par exemple, que j'aime tant. J'aurais adoré que la grâce me soit donnée d'avoir un sens si profond et si sérieux de l'au-delà du monde et du salut possible, que je puisse m'y consacrer et écrire en quelque sorte malgré moi, vous voyez, une grande œuvre d'art. Il y a une phrase de l'évangile que j'aime énormément, c'est « Cherchez d'abord le royaume et le reste vous sera donné par surcroît ». Cette phrase, c'est le mouvement même de la littérature de Pascal. « Cherchez d'abord le royaume et le reste vous sera donné par surcroît ». Le reste, c'est ce chef-d'œuvre littéraire qu'elle est pensée, mais qui tombe comme un copeau, comme le reste. Et moi, j'aurais fait l'inverse. C'est-à-dire que, comme j'avais pas suffisamment de grâce ou d'influx pour « Chercher d'abord le royaume », j'ai pris 1000 chemins de traverse, au travers desquels j'ai eu parfois l'impression de m'approcher des choses qui pour moi comptaient véritablement.
On sait combien la création est souvent, création littéraire, est souvent sujette au changement du support, par exemple. On sait que passer du rouleau sous les Romains au livre tel qu'on le connaît aujourd'hui, c'est un changement de manière d'écrire. Tourner des pages, ce n'est pas la même chose que dérouler un rouleau. On sait aussi que l'invention de la machine à écrire a changé la façon d'écrire. Est-ce que les nouveaux modes d'écriture, est-ce que les nouveaux supports, est-ce que vous conduisent vers d'autres types d'écriture que l'écriture, disons, traditionnelle de quelqu'un dont on se dirait, ben voilà, il écrit comme à la fin du XXe siècle ou au début du XXIe.
Alors, je suis un homme des années 1620, si vous voulez. Je...
On a remarqué.
Donc,
c'est la moustache et la barbe. Ah,
c'est le look. Ce que je veux dire, c'est que j'écris toujours comme j'écrivais quand j'ai commencé à écrire, et au fond, le seul truc, c'est que j'écris avec un stylo et de l'encre, parce que ça m'emmerderait, je crois, de faire comme Léoto et de tailler des plumes d'oie pour les mettre dans un encrier en m'éclairant la bougie. Mais j'aime ça. C'est-à-dire, ça paraît idiot et pratique, mais j'aime là-dedans la résistance de la matière, la résistance du papier, la main qui fatigue, l'écriture qui se dégrade au fil des années qui passent.
Surtout le matin très tôt ou le soir très tard.
Exactement. Et donc, quelque chose qui permet de mesurer l'écoulement du temps, l'hésitation dans l'écriture elle-même. Et puis surtout, cette chose absolument fondamentale pour un type aussi vaniteux que moi, c'est qu'au début, je trouvais un énorme avantage à écrire sur des carnets et à écrire à la main. Parce que, comme je vous disais, je lisais les écrivains par eux-mêmes et je voulais ressembler aux écrivains. Donc on passe très vite de ça à la mythomanie complète. C'est-à-dire qu'on s'imagine très vite qu'on est Rimbaud tout de suite. Et donc quand on écrit sur un ordinateur, quand on a l'impression de passer tout de suite au stade du livre. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est tout de suite imprimé sous vos yeux. Et dès lors que c'est tout de suite imprimé sous vos yeux, en réalité, on fait disparaître la part de doute, la part d'hésitation, la part de travail qui était pour moi l'assaise que mon désir d'identification aux écrivains rendait absolument nécessaire. C'est la raison pour laquelle j'ai jamais cessé d'écrire à la main. Maintenant, les nouveaux trucs qui existent, alors existaient peut-être autrefois d'ailleurs, mais j'adorerais écrire un roman graphique, par exemple. Oui. Et mélanger, mais ça c'est aussi un héritage du surréalisme, si vous voulez, et mélanger le dessin à la littérature même.
Écrire par texto, écrire.
Alors ça, oui. Alors j'ai ça, je le fais. Et malheureusement, je ne sais pas si ça sera publiable ou pas. J'ai deux correspondants, qui sont des correspondantes, avec lesquels j'écris, j'entretiens une alors ça c'est presque comme si je tenais mon journal, si je veux dire. C'est avec qui j'entretiens depuis 3 ou 4 ans une correspondance par WhatsApp extrêmement régulière sur ce qui se passe dans le monde, enfin ce qui se passe dans le monde, et en particulier dans le monde politique, dans le monde voilà. Dans...
Un journal, quoi, une sorte de journal, ouais,
une sorte de correspondance. C'est une correspondance, en fait. Il y a deux dames et un monsieur. Et on s'écrit, et très différent, très très différent. Et donc on s'écrit. Et j'écris, alors ça c'est le côté 1620, c'est que, en fait, les gens écrivent maintenant quand ils s'envoient des SMS, c'est assez simple. Comme, non, moi j'écris, cher Denis, et c'est tout juste, il n'y a pas une formule de politesse à la fin, quoi, bon. Et je fais attention, et après je corrige mes trucs avant de les envoyer. Et quand je dis c'est beau, c'est pas un C, mais c'est apostrophe EST. Enfin bon, mais ça c'est une chose que j'ai beaucoup aimé. Par exemple, j'adore dessiner, faire des aquarelles, etc. Et j'ai découvert, toutes les possibilités données par mon. Enfin, je vais faire de la pub pour Apple, mais il y a des applis absolument extraordinaires sur ce machin qui me permettent de travailler de manière absolument surréaliste en prenant des photographies, des aquarelles que je fais, en les mélangeant avec d'autres trucs, en faisant des. J'adore ça, je suis absolument fou de la technique. C'est différent parce que quelque chose fait que je suis absolument attaché au travail solitaire, absolument solitaire avec mon crayon et mon papier, mais qui est cette impression de forage. Vous voyez, quand vous écrivez un WhatsApp, même avec des gens avec qui vous entendez très bien, vous échangez des trucs, vous passez tout de suite à la production de l'idée, presque immédiatement. Quelque chose vous choque, machin dit une connerie, Madame Belloubet dit des bêtises sur un truc constitutionnel, aussitôt vous saisissez votre WhatsApp, vous dites le garde des Sceaux va pas du tout, c'est pas vrai, elle a pas pu penser ça, enfin voilà, puis les autres répondent. Bon. Ça n'est quand même pas la littérature que j'aime. La littérature que j'aime est une littérature dans laquelle on reste immobile très longtemps sans rien faire. Et on a l'impression que dans le silence, vous allez arriver à forer une espèce de nappe phréatique, et tout d'un coup, vous allez voir remonter au jour ce qui va être la matière même du livre que vous êtes en train d'écrire. Que ça soit un livre, un roman avec des personnages, ou que ça soit une biographie, ou que ça soit le silence, la lenteur, l'absence d'actualité, en fait, va vous faire apparaître l'actualité même comme quelque chose de plus profond et de rattacher à autre chose. Vous voyez, je prenais cet exemple-là, je n'ai rien contre le garde des Sceaux, naturellement, mais vous êtes frappé par une déclaration en public, alors vous pouvez envoyer un WhatsApp. Vous pouvez aussi dormir dessus, et puis le lendemain, vous êtes en train d'écrire quelque chose sur Gorani, un citoyen de Milan absolument incroyable, qui est devenu français par décret au moment de la Convention, et qui a vécu une vie révolutionnaire tout à fait étonnante, et qui a écrit des textes sur la loi, etc. Et vous essayez de reconstituer la vie de Gorani, et tout d'un coup, vous vous rendez compte que il y a quelque chose de commun entre le garde des Sceaux et tel personnage de l'époque girondine, qu'ils ont quelque chose à voir, et qu'il existe une sorte d'âme du monde, vous voyez, qui relie ces différents personnages entre eux, et vous essayez de laisser venir cette âme du monde, vous essayez de voir ce qui vous est dit dans ce surgissement, ce que ça signifie, et là, à ce moment-là, vous pouvez parler de manière peut-être plus profonde et plus intelligente de ce que signifie cette position du garde des Sceaux. Alors que si vous aviez simplement balancé votre WhatsApp, ce que vous auriez dit aurait peut-être été aussi intelligent qu'un tweet de type intelligent, mais n'aurait pas du tout produit le même effet de perspective.
Merci beaucoup, François Sureau.
Merci à vous.
C'était la masterclass de François Sureau avec Emmanuel Laurentin. Coordination Arnaud Laporte, attaché de production Pascaline Bonnet, prise de son Yvan Charby, Stéphane Foulon. Coordination technique Francesca Fossati, réalisation Clotilde Pivin.